Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronicle. Et une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je reçois deux invités, Antoine et Arthur, deux artistes sur un projet assez ambitieux, sous un financement participatif qui est un petit peu différent de celui de Morvan qu'on a eu au précédent podcast. Cette fois-ci, c'est sous forme de Tipeee. Et avec eux, aujourd'hui, on va discuter du projet Hoop Island. Donc, comme vous pouvez vous en douter, ça parle un peu basket. Et moi, il m'en faut pas plus. Merci à vous, les gars, pour m'avoir rejoint. Comment allez-vous ?
Merci à toi.
Vous pouvez vous présenter un petit peu rapidement pour tous ceux qui vont nous écouter. Qui fait quoi ? Qui est qui ? À vous la parole.
Ok, bah vas-y Arthur, commence.
Vas-y, bon, moi je m'appelle Arthur Dahan, j'ai 24 ans. À la base, je viens plutôt d'un parcours un peu entre la communication par mes études et le journalisme, principalement dans le jeu vidéo. Donc tout ce qui est faire des news, tester des jeux vidéo, analyser vraiment comment ça fonctionne, faire des interviews. Et puis au final, progressivement, ben, je sais pas, j'ai pas vraiment trouvé ce que je recherchais là-dedans. Puis je me suis rappelé que quand j'étais petit, je lisais énormément de comics, tout ce qui est du Marvel principalement. Et j'adorais vraiment la manière que les auteurs avaient de créer des personnages vraiment qui pouvaient représenter plein de catégories de personnes différentes dans la réalité, comment ils arrivaient à les faire évoluer. Donc ouais, franchement, du coup j'en suis arrivé, j'avais un peu délaissé les comics pendant une longue période pour me mettre un peu plus aux jeux vidéo, un peu plus à d'autres choses. Et puis quand il y a eu quelques films qui m'avaient un peu déçu au cinéma, j'étais à fond sur les adaptations. Et puis il y a un truc, c'est que généralement quand il y a un film Spider-Man, des fois ça me redonne un peu la motivation de revenir à fond dans les comics. Et puis là, le Spider-Verse, c'était trop pour moi, et puis ça m'a complètement relancé. Puis je me suis rendu compte, en me remettant un peu dans les comics, mais avec un côté un peu plus analytique qu'avant, on va dire. J'analysais un peu comment c'était fait, alors que quand j'étais petit, je ne calculais pas du tout. Et puis j'ai commencé à follow un peu des auteurs sur Internet. Et je me suis progressivement engrainé. Et au bout d'un moment, j'avais plus qu'une envie, c'était d'écrire absolument mon comics, de raconter mes histoires comme ça. Et là, j'ai commencé à avoir un peu l'idée d'Hoop Island. Et je me suis mis à chercher un dessinateur, Antoine, à qui je vais laisser la parole.
Alors voilà, donc moi c'est Antoine, je dessine pour l'instant le projet Hoop Island, et je vais commencer à la base. Moi, le dessin, je suis tombé dedans comme beaucoup de dessinateurs quand j'étais petit, et après j'ai poursuivi tout le temps avec mes études, j'ai fait aussi une fac d'art en 3 ans, j'ai fait aussi une licence de cinéma. Et parallèlement à ça, je faisais des petites BD amateurs et aussi quelques, des BD d'animation, des turbomédias. Je ne sais pas s'il y en a qui connaîtront, mais en tout cas, je les encourage aussi à checker ça sur Internet, c'est sympa. Un petit mélange entre bande dessinée et animation, et ça peut se faire tout seul, donc c'est sympa.
Oh, et puis on a eu des... sur du turbomédia, on a des gros noms français aussi qui travaillent là-dessus.
Balak aussi.
Tout ce qui est... Voilà, typiquement Balak, qui est sur Last Man. Il y a aussi Joffo. Donc voilà, c'est quand même des bons petits trucs, et c'est pas trop répandu, parce que je pense que si on a quand même une orientation de la BD assez traditionnelle, papier, mais aux États-Unis, quand même prend un peu le pas et propose des projets intéressants aussi. Donc moi je plus sois complètement ce que tu dis, de jeter un œil sur le turbo média, c'est un média justement vachement intéressant.
Merci. Et du coup, après, pour revenir un peu à Hoop Island, il y a Arthur qui est venu à moi me présenter le projet. Il m'a dit en premier, alors ça va parler de basket, de combat. Et aussi, ça se passera dans le futur. Moi, déjà, je me dis, OK, on va se caler une petite après-midi, on va parler de ça.
Un peu d'écologie aussi, des thématiques comme ça, de social, qui n'étaient peut-être pas forcément attendues aussi.
Justement, on peut faire un petit point sur le projet. Alors, moi, rapidement, Pour ceux que ça intéresse déjà, bon, les liens seront juste sous la présentation de l'épisode avec le Tipeee pour si jamais ils veulent voir un petit peu les planches que vous avez mis à dispo, le projet, comment vous le présentez. Mais pour en toucher mot, Oop Island, en fait, vous le vendez un petit peu comme, on va dire, pour ceux qui connaissent, moi j'ai vu un parallèle avec Suiciders de Liber Mero et là plus récemment Wind de James Tanyon Fort et Michael Dialinas, où en fait il y a dans Oop Island deux castes, enfin deux castes, c'est-à-dire deux types de populations qui ont vécu, qui ont survécu à un univers post-apo et qui règlent ça un petit peu autour de, d'une ligue de basket, on va dire, ouais, un peu comme si c'était un ring qui réglait le problème, quoi. Je vais quand même vous laisser la parole parce que voilà, moi c'est un petit peu le visu que j'en ai en tant que lecteur qui suit ça. Mais c'est votre bébé, du coup, je vais vous laisser le présenter comme vous l'avez pensé et comme vous voulez qu'il soit perçu. Et c'est peut-être voilà, pour ça que moi je voulais en parler avec vous.
Carrément. Du coup, on va dire. On a plusieurs, comment dire, plusieurs échelles de pitch pour Oop Island. La première échelle, très basique, on va dire que c'est la baston basket post-apo. Donc voilà, un monde post-apocalyptique. L'humanité a été... Enfin, la Terre, en tout cas, a été ravagée par... généralement, ça peut être des catastrophes nucléaires, mais chez nous, ce sera des catastrophes naturelles. Parce qu'on peut le voir généralement... Enfin, on peut le voir même en ce moment, ce qui se passe en Amazonie, la fonte des glaces, etc. On voit beaucoup de... Comment dire, il y a beaucoup de catastrophes naturelles dont on pensait qu'elles allaient arriver plus tard, au vu des changements climatiques, etc. Mais on se rend compte de plus en plus que ça peut arriver de plus en plus vite. Et bah, nous, c'est un moyen qu'on a utilisé pour pouvoir se dire, bah, et si bah, les personnes, certaines personnes qui avaient vu le truc venir et qui étaient assez, on va dire, des personnes qui avaient... assez de moyens, c'était toutes réunies pour se dire, bon, dans un premier temps, rien que par égoïsme un peu, on va se coffrer à tel endroit, on va se construire le bunker et bah, résister à toutes ces catastrophes, etc. Et ensuite, bah, une fois qu'ils ont pu résister à ces catastrophes, ils se sont rendus compte un peu bah, qu'il n'y avait quasiment plus personne, qu'il n'y avait quasiment plus de terre. Et ils se sont dit, bah, les gars, avec tout ce qu'on a amené ici, avec tous nos moyens, avec tout ce qu'on peut faire, on va rebâtir. Et dans un premier temps, du coup, bah, ce qu'ils ont rebâti est devenu Utopia. Donc, bah, comme son nom l'indique, hein, c'est un nom aussi un petit peu assez basique, mais qui permet vraiment de résumer la chose de manière simple. C'est une utopie, tout ce qu'il y a de plus simple. Il y a vraiment tout le monde vit de la manière, comment dire, de la manière parfaite. Tout le monde peut vivre comme il l'entend. Tous les services, que ce soit de soins, etc., tout est absolument accessible à tout le monde, mais au bout d'un moment, on va avoir de plus en plus de population qui va venir, bah, des gens qui peuvent être rescapés d'autres endroits du monde, parce que forcément, il y a des gens qui ont réussi un peu à tenter de survivre autour de la Terre, pendant survivre à ces catastrophes, etc. Ces gens-là vont tenter d'émigrer à Utopia, et là, Utopia, d'un coup, va se rendre compte que bah, d'un côté, elle ne peut pas accueillir tous ces gens, elle ne peut pas promettre l'utopie à tout le monde, et au lieu de partager ses richesses et de permettre à tout le monde, pourquoi pas aux gens qui étaient déjà là avant, de faire des concessions et de permettre aux nouveaux de vivre, Utopia va se braquer et va décider de complètement bah de monter un mur, un peu à l'instar de ce qu'on a pu voir aux États-Unis avec ce que Monsieur Trump a pu tenter, par exemple, de monter totalement un mur pour empêcher l'immigration de venir. Et même, ils se sont dit qu'ils vont aller encore plus loin en délocalisant le peu de, comment dire, le peu de tâches qu'on pourrait qualifier de ingrates, ou en tout cas qu'ils ne veulent pas réaliser. Ils ont délocalisé ces tâches-là en banlieue dans l'objectif de, bah, de commencer à asservir cette population et de, à tout prix, maintenir l'utopie qu'il y avait au milieu.
Je me permets, juste, sur ton pitch, en fait, on est typiquement sur du comportement humain basique. Vraiment un cycle d'humain qui comprend rien et qui, malgré toutes ses erreurs, recommence les mêmes encore et encore et encore.
Exactement.
C'est ça, exactement. Et justement, au milieu de ces, comment dire, dans cette division entre le centre et la banlieue, on va avoir deux ligues. Une ligue de basket qui sera une ligue pour laquelle, comment dire, qui va représenter, comment dire, le fait de percer dans cette ligue-là va présenter un peu un idéal de réussite pour les gens du centre. Comment dire, énormément de basketteurs seront présentés comme des icônes, vu qu'Utopia sera une ville, en tout cas un état qui sera encore en train d'émerger, entre guillemets, c'est quand même un état assez jeune au moment où on arrive dans Hoop Island. Le basket, ça va vraiment être le premier vecteur de rassemblement de la population, le premier divertissement qui va vraiment un peu polariser l'attention. Les basketteurs UBL, du coup, la Utopia Basketball League, du coup, les basketteurs UBL vont vraiment un peu devenir les premières icônes de la pop culture utopienne. Donc, il va y avoir tout un délire avec ça au centre, là où en banlieue, on avait parlé tout à l'heure du fait que les gens de banlieue allaient devoir un peu effectuer toutes les tâches ingrates que le centre ne veut pas faire. En réalité, il y a un moyen de s'échapper de ces tâches ingrates, de ne pas réaliser ces tâches-là, de ne pas se lever très tôt pour aller à l'usine et faire la même tâche jusqu'à très tard. C'est d'intégrer une ligue de combat qui est spécifique à la banlieue, qui s'appelle du coup la FTL, sobrement Fight to Live. Et du coup, nous, au fil d'Hoop Island, on va suivre un peu des personnages qui viennent de UBL, de FTL, et on va essayer de voir comment des personnages qui viennent de milieux vachement différents vont être amenés à se croiser, à interagir. On va avoir des gens qui, pourquoi pas, vont passer d'un milieu à l'autre, dans un sens ou dans l'autre. Et voilà, c'est un peu compliqué à expliquer maintenant parce que on n'a pas encore l'épisode 1 concret à te présenter.
Ouais, non, le projet est quand même assez ambitieux parce que là, de ce que tu viens de nous présenter, tu as quand même un univers vachement dépeint et assez bien ancré avec toutes les bases nécessaires en fait pour faire partir l'histoire. Moi, je t'avoue, je trouve ça plutôt intéressant. Surtout le fait que tu mets deux ligues sportives, alors pas le même sport, peu importe le sport au final. Mais en fait, tu mets deux ligues qui ont toutes les deux dans deux catégories différentes, dans Utopia et dans la banlieue, la même vocation, c'est-à-dire donner de l'espoir aux personnes qui veulent l'intégrer.
Ouais, je voulais juste rajouter avec le fait que là où on va dire à Utopia, ce que tu peux risquer, ça va juste être peut-être la fame ou quoi. Là, par contre, en banlieue, tu peux risquer totalement ta vie. Et c'est pour ça justement que beaucoup de gens hésitent entre le fait de travailler à l'usine et d'aller se battre. C'est que tu peux. Est-ce que tu choisis entre une vie extrêmement monotone où tu endures, on va dire, une souffrance constante ou une vie où tout peut s'arrêter à n'importe quel moment. Il n'y a pas vraiment de bon choix. Et du coup, ouais, voilà, on a envie d'essayer de raconter. Enfin, c'est ça aussi, c'est ça aussi un des grands défis de Hoop Island, c'est qu'on a envie de raconter des tonnes de choses. Et ça se sent aussi dans la manière dont, je pense, on présente un peu le projet. Mais ouais, le défi, c'est vraiment de choisir, de trouver comment raconter les choses, choisir quoi raconter en premier. Comment le raconter de manière fluide, rythmée? Et on est à fond, on est super chaud pour relever ce défi.
Du coup, ouais, là, le pitch est fait. On voit sur le Tipeee aussi que vous parlez du coup des différents propos, des personnages. Avant de revenir un petit peu sur tout ça, moi, j'ai quelques questions pour Antoine au niveau des dessins et de la manière de créer justement tout cet univers. Est-ce que toi, tu es parti en fait des notes que Arthur t'a proposé? Est-ce que c'est des personnages que vous avez créés tous les deux, que toi t'as mis en ébauche en premier et après tu les proposes à Arthur? Comment tu crées en fait ces personnages, cet univers? Est-ce que déjà t'as créé Utopia un petit peu sur des brouillons, la partie en fait purement technique, graphique, comment toi tu la prépares?
Au début, il y a Arthur qui me propose des petites pistes d'inspiration. Il me dit, alors ce personnage-là, j'ai pensé à lui et lui en termes de physique, si tu peux mélanger un petit peu. Et après, je commence à dessiner, à faire plein de croquis, à donner quelques propositions. Et puis, il me dit, celui-là, ça m'intéresse un petit peu, je creuse un peu. Et puis, le personnage se fait tout seul, au final. Et plus je le dessine, plus il va un petit peu changer dans les détails, se peaufiner. Et là, je me dis, ah, ça y est, c'est bon, c'est le bon personnage. J'arrive à l'imaginer dans toutes les séquences qu'on a imaginées. Et c'est bon.
Ben, je vois là, j'ai sous les yeux le petit gif que vous avez mis avec les personnages. Typiquement, enfin, moi, c'est des noms qui me parlent. Je pense que les gens qui vont nous écouter aussi et qui suivent un petit peu la NBA, ça va être des noms qui leur parlent. On a Nate Mulligan, on a Djana Parker, on se retrouve avec Glenn Gilbert aussi, qui se rapproche du propriétaire des Cleveland Cavaliers. Je pense que.
Merci, merci. Franchement, je savais pas qu'il y avait quelqu'un
On
qui
a
allait
pareil
trouver
avec.
ça. Enfin, je pensais pas que dans notre premier podcast.
Si, si, mais après, moi, je suis un fan un petit peu, pas hardcore, quoi, mais je suis beaucoup la NBA. Et du coup, en fait, c'est ça qui m'a plu aussi, cette espèce de mix. Pareil, le coach, Nate Mulligan, c'est Nate McMillan, mais en version comics, tu vois. Donc, c'est des petites choses que moi, j'ai apprécié voir. Et du coup. On en arrive en fait au point qui m'intéresse sur ça. Est-ce que toi, tu fais des recherches justement pour ces personnages et cet univers en t'inspirant et en faisant des recherches sur la NBA? Est-ce que tu y étais familier de cet univers-là
À fond.
ou juste c'est l'idée du pitch qui vous a poussé un petit peu Alors je sais que Arthur, justement, on en parlait un petit peu, est assez friand de NBA. Mais toi, Antoine, est-ce que ça t'a poussé à creuser un petit peu ça?
Ah bah justement, moi au début, je connaissais quasiment rien au basket, à part quelques grands noms, quoi, comme tout le monde. Mais quand Arthur m'en parle sur. Ah là, pardon. Quand Arthur m'en parle, je sais pas, c'est un sport franchement qui m'intéresse tellement et que je trouve tellement sous-estimé. Enfin, on parle tellement de foot en France que, à côté de ça, le basket, il est un peu délaissé au final, je trouve. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a tellement plus d'histoires sympas que aussi même rien qu'en termes de physique de personnage. Ça, c'est ce qui m'intéressait dans le dessin d'ailleurs. C'est qu'il y a vraiment, comment dire, des monstres dans la nature, quoi.
C'est des super-héros. En tant que fan de
C'est un
comics
peu
aussi, c'est
ça.
ça qui fait kiffer dans le basket. C'est bah ouais, un mec 1m90, il est petit. Un mec de 2m11, c'est normal. Et on en a même déjà vu des plus grands. Et ouais, c'est juste
Ouais,
ouf.
complètement.
Et donc voilà, c'est Arthur qui m'a poussé à m'intéresser au basket. Et donc maintenant, on regarde un peu quelques matchs de NBA ensemble. Voilà, je suis peu à peu la chaîne de Trash Talk en France et pas mal d'autres. Mais moi, au
Mais
début, j'y connaissais rien. Et voilà, j'apprends au fur et à mesure.
tu disais justement que ça t'avait plu en fait que le basket soit plus que juste du sport en fait, parce que tu as toutes les histoires qui est un petit peu autour. Moi, c'est ce que j'aime particulièrement dans la ligue en fait, presque plus que les matchs, c'est tout ce qui se passe autour, le storytelling qu'il y a autour d'un joueur qui va changer d'une équipe à une autre. Les histoires qu'il y a derrière, tu vois, tout ce qui est contrat, management, etc. Et là, en fait, sur ce projet-là que vous avez, est-ce que vous vous inspirez un petit peu ou vous prenez en compte justement toute cette effervescence qu'il y a autour du sport, en fait? Typiquement,
Énormément.
voilà, ouais, moi, ma question, c'était. Là,
Franchement.
on a vu avec le Covid, justement, ils ont relancé la saison dans la bulle, dans un contexte particulier, avec énormément d'actions pour le Black Lives Matter et toute autre chose. Et est-ce que ces thématiques-là vont ou sont abordées et vous servent un petit peu de moteur pour
Bien
nourrir
sûr,
l'univers?
totalement. Bah, tu as exactement résumé la situation. Et bah, c'est franchement, il y a des mots, c'est limite les mots du Tipeee. C'est vraiment le storytelling que bah, la NBA met en place autour des légendes. C'est même, comme tu l'as dit, au-delà de ça, enfin. Déjà, toutes les petites histoires, toutes les petites anecdotes qui font un joueur. Il y a tellement de, comment dire, il y a tellement de parcours différents. Et après, ouais, je m'égare un peu pour revenir sur toute la partie sociale, vraiment le mouvement Black Lives Matter, le fait que on a, comment dire, la NBA et le combat social, ils ont vraiment une histoire commune qui dure depuis tellement longtemps, qui a été vraiment cultivée et transmise. Et alors que dans certaines ligues ou on va dire dans certains gouvernements ou dans certains milieux culturels, ça pourrait être mal vu de des fois mettre en avant des minorités. La NBA, c'est quelque chose qu'elle a fait très très tôt et les propriétaires ont suivi. Et c'est ça que je trouve absolument fou. Je pense que tu connais quand même les noms de David Stern, les noms de Adam Silver aujourd'hui, qui sont des propriétaires qui permettent à la Ligue de pouvoir laisser les joueurs s'exprimer. Et je trouve ça fou que ce soit une Ligue qui permette à ces joueurs-là d'utiliser l'énorme plateforme qu'est la NBA, l'énorme médiatisation, tous les moyens qui sont mis dans la retransmission de ces matchs et dans le développement de cette culture. Ils utilisent tout ça pour faire passer des messages, essayer de faire changer la société. Et du coup, ouais, le storytelling et cet aspect social, c'est des choses qui m'ont énormément influencé dans l'histoire. Et d'ailleurs, il y aura énormément, au fil de l'histoire, de petits clins d'œil, de parcours de joueurs ou de petits moments de match ou quoi que ce soit qui vont rappeler des parcours, pourquoi pas des parcours en play-off mythiques qu'on a connus ou quoi, pas tel quel évidemment. Il y aura énormément de, tout a été mis à notre sauce, mais c'est quelque chose qui m'inspire énormément. Et même dans la création de personnages,
ouais, du coup,
on a des villes.
Du coup, on peut en fait,
font écho, et ouais.
Que Oupa Island, en fait, tu vas pouvoir capter des nouveaux lecteurs qui sont complètement étrangers à cet univers-là, mais tes lecteurs qui vont suivre le basket ou qui vont aimer ce sport et tout ce qu'il y a autour vont quand même s'y retrouver parce que c'est quelque chose qui compte pour toi aussi et tu vas en mettre du clin d'œil au fil de ton histoire, quoi, parce que ça aide à ça. Quoi.
Et ouais, exactement. Et même au-delà de ça, c'est un comics que, personnellement, c'est ma première expérience vraiment. En tant que, ma première expérience de comics, d'un projet vraiment de création de ce style-là. Et... Attends. tu peux répéter ta question, s'il te plaît?
Je te disais si... tu prépares tout l'univers de Oupa Island pour on va dire convaincre des
ah oui pardon
lecteurs.
Oui c'est bon, ok c'est bon. Du coup, oui, dès le début il y avait plein d'aspects sur lesquels j'étais hésitant, je savais pas trop comment représenter, et du coup très tôt je suis allé voir un peu en message privé Twitter des gens comme je sais pas si tu vois le psy de Trash Talk,
complètement, ouais,
ou des pages comme les pages de communauté française fan NBA comme je sais pas Indiana Pacers France, Raptors France, etc., Thunder France. Et du coup, je suis allé leur montrer un peu des bouts, des premières pages, des bouts de scénario au début que j'avais pour savoir si eux, ça les intéressait, sachant que c'est pas forcément du tout, voire même du tout des fans de comics à la base. Et ils m'ont aiguillé sur pas mal de choses, ils m'ont donné leur retour. Je suis allé voir un peu vraiment des gens de la communauté que basket, des gens de la communauté que comics, des gens qui étaient un peu entre les deux, pour essayer d'avoir justement les retours les plus complets et m'assurer de bien me lancer.
Ouais, c'est quand même quelque chose que... Enfin, vous n'avez pas décidé de dire genre du jour au lendemain, tu le disais, ça fait 8 mois, mais même passer ces 8 mois, c'est quelque chose que vous avez vraiment construit au préalable pour essayer de faire un peu le juste milieu de tout ce que vous aimez, quoi.
Ouais, ça faisait déjà quelques mois avant que j'aille voir Antoine que j'avais commencé à vraiment travailler le scénario. Et voilà, essayer de travailler un peu l'univers, qu'est-ce qui pourrait être intéressant à raconter. Et surtout, ouais, je voulais absolument parler de basket. Comme le disait Antoine, c'est même si on voit que de plus en plus, on voit des gens qui s'y intéressent, c'est quand même compliqué le soir de trouver vraiment beaucoup de gens pour, à part sur Twitter, pour interagir sur le basket, pour regarder des matchs. Donc, c'est cool d'essayer de continuer au maximum à propager cette culture. Et ouais, clairement, l'amour du basket, c'est clairement un des moteurs premiers. Et comme tu disais, il y a tellement de, comment dire,
l'effervescence qui a autour.
L'histoire du basket, c'est ça. Il y a tellement d'histoires, rien que ce qui se passe avec la bulle. Tout ce parcours-là, le fait que tout se soit bien passé, on a vu les vlogs des joueurs un peu, comment ça se passait à l'intérieur. Et ouais, non, c'est fou. Enfin, l'histoire est constamment écrite et il y a tellement d'histoires variées que, au bout d'un moment, c'est, comment dire, ça inspire tellement qu'il fallait absolument que j'en fasse quelque chose.
D'accord.
Et Antoine, comme il a dit tout à l'heure, a été hyper réceptif. Donc,
ouais,
bah, franchement, c'est nickel. Hein.
Vous formez un petit peu un duo dynamique sur cette lancée-là. Moi, j'ai justement sur ta manière d'écrire et peut-être Antoine te donne aussi un avis pour préparer votre histoire.
Carrément.
Est-ce que vous l'avez déjà, vous avez votre fil rouge du point A au point B et tu connais déjà un petit peu ton histoire et après vous laissez des libertés pour adapter un petit peu comme bon vous semble au fil de l'histoire, ou vraiment tu fais un numéro par numéro, parce que là, on parlait tout à l'heure, justement, c'est un Tipeee, donc vous n'avez pas de date de sortie, du moins, je n'ai pas su la trouver. Est-ce que...
Bon, on a mis fin 2020 pour le premier épisode, pour le premier numéro.
Voilà, du coup...
Mais c'est assez vague.
Comment vous le travaillez, en fait? Comment vous... Ouais, voilà, enfin, je sais pas trop comment le dire, mais comment vous allez livrer, entre guillemets, ce chapitre 1? Ça va être quoi votre procédure, entre guillemets?
Comment est-ce qu'on travaille, du coup, c'est ça?
Ouais, voilà, comment vous travaillez l'un avec l'autre?
Alors, au début, il y a Arthur qui a les grandes lignes de l'histoire, et ensuite, il m'en parle. Et après, là, on resserre l'histoire par chapitre. Et dans le chapitre, d'abord, il fait une première écriture. Dans cette première écriture, en fait, c'est que du texte. Hein. Il n'y a pas de storyboard pour l'instant. Et ensuite, on voit le storyboard ensemble. Et là, il y a limite une deuxième écriture pendant le storyboard pour que ce soit beaucoup plus visuel, en fait.
Ok, ouais.
Et après, du coup, je procède à l'ancrage. Je fais d'abord tout l'ancrage et ensuite on fait les aplats de couleurs et ensuite la colorisation. Mais d'abord on fait tout l'ancrage, ensuite la colorisation. Ça permet d'avoir un peu une uniformisation dans l'ancrage parce que j'aime pas trop quand on passe, je sais pas, genre 20 jours sur une page parce qu'on n'est pas décidé pour la colorisation. Après, notre trait il a le temps de changer à la page 2, 3, 4, etc. Donc, je préfère que le trait soit le même et qu'on fasse tout en même temps et après que la colorisation soit pareille partout.
Ok. Et du coup, c'est un travail que tu fais purement numérique. Tu fais tout sur informatique. Tu fais pas en traditionnel, scan et...
Oui, on bosse sur Clip Studio. Et bon, y a juste des tout petits storyboards des fois qu'on fait sur papier. Et après, on le fait vraiment le storyboard un peu plus détaillé sur l'ordinateur directement.
D'accord, ok. Et du coup, sur cette plateforme Tipeee, est-ce que vous partagez ce genre de petits bonus, balancer par exemple un petit storyboard d'une page que vous avez fait, ou de... Est-ce que c'est des choses que vous animez, comment vous l'animez en fait, votre projet?
Bah, ça, on avait commencé au départ, même avant Tipeee, à animer un peu la page Twitter, essayer de rajouter un peu des... Enfin, mettre en avance des petits storyboards, etc. pour montrer... Bah, un peu l'évolution du projet. On avait fait un petit format où, du coup, bah, sur quatre images, on avait au début le storyboard, ensuite l'ancrage, ensuite la colo, ensuite vraiment tout avec les ombres, le résultat final. On avait testé un peu des choses, mais actuellement, on est vraiment à fond dans la finalisation de l'épisode 1. Comme le disait Antoine, on repasse souvent sur l'écriture, sur plein d'aspects, parce que bah, dans la mesure où, comment dire, on est rookie dans cette expérience. Des fois, il y a des moments où, comment dire, on va se rendre compte, ah tiens, dans le scénario, il y a tel truc qui n'a pas marché, on l'avait des fois un peu pris pour acquis. Comme on prévoit aussi l'histoire un peu à l'avance. C'est-à-dire que, je crois que tout à l'heure, tu posais la question, et je n'y avais pas répondu d'ailleurs, sur le fait de, est-ce qu'on travaillait au début sur le chapitre 1, à fond sur le chapitre 1, ou est-ce qu'il y avait une vision d'ensemble ou quoi? Et du coup, ben, on a plein de... Enfin, j'ai plein de petits documents, avec un document sur le premier arc, un document sur comment dire, une première grosse partie qui va regrouper les premiers arcs. Tout est découpé un peu en saison, ensuite resserré en arc, et ensuite resserré en épisode.
Tu as déjà préparé la structure, en fait.
C'est ça. Parce que dès le départ, j'ai... Enfin, comment dire, dans la mesure où j'étais un peu novice en la matière, je suis allé regarder un peu comment plein de gens travaillaient leur scénario, que ce soit en lisant des comics ou regardant tout simplement des conférences ou des tutos de personnes qui écrivent aussi. Et j'ai vu beaucoup revenir le fait de... avant de se lancer vraiment... Enfin, quand on se lance pleinement dans la création d'un personnage, essayer toujours de vraiment déterminer son évolution, de déterminer où il va finir, afin de pouvoir construire ce personnage selon un cheminement logique, plus que vraiment essayer d'y aller un peu, comment dire, épisode par épisode, un peu au jour le jour. Et du coup, ça nous permet d'avoir, même avec Antoine, une bonne vision de tous les personnages, de ce qu'ils peuvent devenir. Et du coup, ça nous a poussé dès le début à penser à long terme.
Bon, c'est ambitieux et en même temps, c'est quand même très, très construit. C'est quelque chose où vous savez où vous allez, malgré que ce soit ambitieux. Là, c'est préparé comme 4 chapitres pour le premier arc.
C'est ça.
5 chapitres, pour le premier arc.
Il y a des, comment dire, disons qu'on va avoir un gros événement à la fin du premier arc et on est en train de décider est-ce qu'on le fait en 1 ou 2. C'est une des grandes questions.
D'accord. En fait, c'est pour garder le lectorat, le cliffhanger qui fera revenir tout le monde sur la saison 2.
C'est ça. Et ça, par contre, je tenais quand même un peu à parler de cet aspect-là. Sur le délire, tout ce qui va être autour du cliffhanger, de donner envie. Je suis inspiré à fond par les travaux. En ce moment, je ne sais pas si tu lis un peu ce qui se passe du côté de chez Marvel, du côté de Donny Cates ou de Ali Wing avec, par exemple, son Immortal Hulk. Ou le Venom de Donny Cates, et j'adore la manière dont qu'ils ont de, comment dire, on sent que l'histoire est faite pour durer. Donny Cates nous dit, il a écrit son histoire sur 5 ans, il a prévu des tonnes et des tonnes de trucs, mais pourtant les arcs se suffisent vachement à eux-mêmes, et même à la fin de chaque épisode, enfin on a des arcs de 5-6 épisodes, et à la fin de chaque épisode, on a quand même la révélation, on arrive toujours à rester à fond au début de l'épisode, au début du prochain épisode, on a direct des choses qui, comment dire, on est toujours stimulé émotionnellement. Il y a toujours du rythme, il y a toujours, et ça nous inspire beaucoup.
C'est assez marrant que tu parles de Immortal Hulk. Moi, c'est une des rares séries que je lis chez Marvel. Et ce que j'apprécie vraiment, en fait, c'est que tu prends chaque épisode indépendamment, tu lis une aventure de Hulk. Mais si tu les mets tous bout à bout, t'as une grande épopée, en fait. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez important qui est assez souvent oublié. C'est que n'importe qui peut arriver sur un numéro 5 ou un numéro 8 de comics, mais il ne faut pas qu'il soit perdu, parce que sinon, il ne va jamais soit aller chercher le début, soit continuer la suite. Et ça, est-ce que du coup, tu me parles de Donny Cates et de Ali Wing, qui sont quand même de gros noms de scénaristes et qui n'ont plus grand-chose à prouver. Mais est-ce que toi et Antoine, du coup, vous le pensez aussi comme ça, sur des numéros indépendants, mais quand même tous connectés? Ou est-ce que c'est vraiment un arc, il faut vraiment lire l'arc pour avoir ton histoire?
On va dire c'est quand même vachement mieux de lire l'arc pour vraiment comprendre... on va dire que c'est plus chaque arc qui est indépendant, parce que quand même les épisodes pris séparément, en dehors peut-être du premier et peut-être du deuxième, ce sera peut-être plus compliqué à suivre, dans la mesure où on va suivre vraiment le parcours d'un personnage, où on va suivre vraiment son évolution. Après, bien sûr, on est totalement inspiré de la manière, même si on estime, enfin personnellement, je n'estime pas du tout avoir le niveau de ces gens-là. Mais on prend ce qu'il y a à prendre et on essaye de s'inspirer même au-delà dans le format du comics. Tu vois sûrement, généralement au début des pages de comics, même si ce n'est pas trop le cas dans les Immortal Hulk, etc., on a toujours une petite page avec le titre, les auteurs, et puis un petit résumé de l'origine du personnage principal et un petit résumé rapide de où en est l'histoire jusqu'à présent. Et ouais, on va essayer, enfin, comment dire, ouais, de toujours trouver un moyen de créer une histoire au maximum, comment dire, ouais, au maximum fluide pour qu'on puisse, ouais, que tout s'enchaîne bien, mais en même temps assez découpé pour que, ouais, même si je pense que c'est quand même une tâche assez compliquée à réaliser, que quelqu'un puisse jump comme ça sur l'épisode 2 ou l'épisode 4 sans avoir lu les précédents, on va essayer de faire au mieux pour que le tout soit le plus accessible possible.
D'accord. Et du coup, moi, j'ai une petite question encore pour Antoine avant de revenir et de parler un petit peu sur le Tipeee. Au niveau de tes dessins, tu as fait un peu des fiches personnages avec la présentation un petit peu en plein pied, un buste, la petite description. On le voit justement en GIF sur le Tipeee. Est-ce que tu vas garder cette même présentation et c'est des choses que toi graphiquement tu as envie de travailler et de proposer dans le comics ou c'est vraiment juste pour un peu pour promouvoir sur le Hoop Island sur le net ou c'est quelque chose que tu aimerais intégrer
Ah, l'aspect fiche personnage dans le
Ouais.
comics? Non, c'est plus vraiment pour expliquer aux gens avant, après. On n'a pas prévu de le mettre pour l'instant dans le comics en lui-même.
D'accord, ok. Du coup, moi, au niveau de Hoop Island, je pense que. De Hoop Island, pardon, il n'y a pas de S. On a fait le tour un petit peu des questions que j'avais. Je vais basculer un petit peu sur le format que vous avez pris, parce que généralement, on voit beaucoup de créations de comics qui passent par du financement participatif, mais sous format de Ulule, Kickstarter et compagnie. Et vous avez choisi le
Ouais.
format Tipeee. Alors, on en parlait un petit peu tout à l'heure, que c'était justement ce format-là qui correspondait un petit peu à la philosophie du projet, comment vous l'avez pensé. Et justement, est-ce que vous pouvez un petit peu détailler ben voilà, la philosophie du Tipeee et de votre projet, et pourquoi les deux matchaient si bien?
Bah, à la base, on était parti plus sur quelque chose type Ulule ou Kickstarter. Parce qu'on s'est dit, oui, on va avancer sur l'épisode 1, et dès que l'épisode 1 sera fini, et on aura vraiment bien le scénario du 2, du 3, que tous les pitchs seront parfaits, on va se lancer directement dans le financement du premier arc. Pour financer, du coup, principalement son impression, parce qu'on s'est un peu renseigné ce que ça ferait une fois que combien ça coûterait une fois que tout le chapitre serait clôturé. Du coup, on avait commencé à réfléchir un peu sur. Un budget, analyser plusieurs Kickstarter, Ulule. Et puis au fur et à mesure qu'on travaillait, on s'est rendu compte qu'on voulait faire un projet plus ambitieux que ce qu'on avait à la base. Et que, du coup, qui dit ambition, dit que ça prend énormément de temps. Et du coup, on s'est rendu compte qu'on aurait besoin de plus de temps que prévu pour faire le premier épisode. Et dans la mesure où on n'avait pas trop de visibilité sur le temps, on ne sentait pas trop de faire vraiment un Ulule ou un Kickstarter où vraiment on arrive avec une date, on dit le projet arrivera dans ces eaux-là et les gens mettent leur argent une fois pour le projet. Ouais, on s'est dit vraiment comment dire, le Tipeee, ça nous permet d'avoir un peu plus de flexibilité sur notre manière de travailler dans la mesure où c'est plus dans le temps. Et c'est quelque chose comment dire, qui comptait vraiment pour nous dans la mesure où on a vraiment. Comme disait Antoine, on a réécrit plein de fois le projet, on retravaille sur les dessins, on retravaille sur plein d'aspects. Du coup, on s'est dit, on n'a pas envie de rusher pour arriver à telle date parce qu'on avait promis et les gens ont déjà payé,
En fait,
etc.
vous êtes moins tributaire d'une date butoir qui vous bloquerait pour la création par le Tipeee que le Ulule.
C'est ça. Et surtout que l'impression, ça demande quand même une somme conséquente. Donc, on se serait aussi un peu senti mal d'avoir demandé une telle somme pour peut-être ne pas délivrer le projet à temps ou quoi. Du coup, on s'est dit, on va essayer de prendre un peu de flexibilité. Les gens sur le Tipeee savent à quoi ils s'engagent. On a tout raconté sur la page et voilà,
D'accord.
c'est clair et ça nous convient bien.
Et du coup, justement, là, tu parles d'impression. Dans un premier temps, dans tous les cas, les travaux que vous faites sont dispo et sortiront enfin, seront dispo et sortiront au format numérique, quoi qu'il arrive. Mais vous, c'est votre ça. Ambition, c'est quand même d'en proposer un format papier.
Ah, bien sûr, je pense que ça fait rêver tout scénariste et beaucoup de dessinateurs de tenir sa propre œuvre dans les mains. Donc, bien sûr que c'est une finalité
vous
en
avez,
soi.
Mais vous avez déjà travaillé sur une maquette ou fait des tests, des choses comme ça, pour voir un peu le rendu final genre, vous êtes fait votre petit kiff d'impression
Non, j'avais testé ça une ou deux fois, mais vraiment juste pour tester. Moi, j'étais en train de travailler un peu le lettrage, la police. Je voulais voir comment ça rendait, en quelle taille il fallait qu'on essaye d'imprimer pour que ben, ça reste lisible. Et en même temps, on a pour objectif de proposer un format un peu entre le format, comment dire, un peu entre la taille de classique de comics qu'on a et un format de poche qu'on a avec le manga. Donc on essaye un peu de trouver un juste milieu. Donc des fois on fait des petits tests comme ça. Mais on ne s'est pas fait le kiff encore de s'imprimer plein de pages à la suite et vraiment de le lire physiquement. Mais plus on avance, plus ça va
Ça
arriver.
reste en suspense et le format final va dépendre un petit peu de vos envies et de comment l'histoire se présente à vous, très probablement du coup.
C'est ça.
Mais, du coup, moi j'arrive à la fin de mes petites questions et de mes petites curiosités personnelles et mon envie de partager ce projet. Je vais vous laisser la parole un petit peu si vous avez d'autres choses à rajouter ou si vous avez envie de faire un petit peu du teasing et de motiver des gens qui ne seraient pas tombés sur le projet. C'est le moment ou jamais pour ce que ça vaut. Et à mon échelle, vous avez la parole.
Vas-y, Arthur.
Vas-y, bah franchement, hein, comment dire, c'est un comics qui s'adresse à la fois aux fans de comics dans, comment dire, de toutes sortes. Vraiment, on essaye de mettre en avant à fond un propos social. On essaye de mettre à fond en avant un propos écologique aussi. On essaye de développer des personnages de tous horizons, de toutes origines, de tous milieux sociaux. Et après, comment dire, si en termes d'action, on essaye, comment dire, Antoine n'en a pas trop parlé, mais il est particulièrement fan de, par exemple, des travaux de Yusuke Murata, le dessinateur de One Punch Man, et du dynamisme qu'il met dans ses planches, etc. Donc, comment dire, on a énormément d'inspiration au niveau action, niveau basket. Si vous êtes fan de NBA, je pense que clairement, et au vu de tes remarques, ça s'est aussi senti, et même tu nous as parlé de la manière dont tu t'étais intéressé un peu au projet, clairement, si tu es fan de NBA, j'espère vraiment que tu vas kiffer Hope Island, et je pense qu'il y aura des tonnes et des tonnes de raisons qui vont faire que tu peux kiffer. Et voilà, franchement, on va dire, c'est un projet ambitieux. On est au début, on a déjà bien avancé, on a tellement de choses à raconter, on est archi motivé. Et voilà, franchement, on est à fond.
Voilà, on a la chance de faire quelque chose qu'on aime
C'est ça.
et on a envie que ça continue le plus loin possible.
En tout cas, on peut l'entendre de la manière dont vous présentez le projet et les idées, les envies que vous avez. Enfin, moi, ça me donne un petit peu plus envie de découvrir par rapport à ce que j'avais vu et ce que j'ai lu du projet sur le Tipeee. Le fait d'échanger avec vous, d'avoir votre vision aussi, c'est aussi motivant parce que on n'est pas juste face à une page d'explication parmi tant d'autres. Donc, je suis très content que vous m'ayez accordé un petit peu de temps pour parler de ce projet.
Merci à toi,
J'invite tout le
encore une
monde
fois.
justement à aller voir le projet sur le Tipeee. Je mettrai les liens et dans les notes de l'émission, le Twitter également, pour que si jamais il y a des questions ou autres, je pense que vous répondrez avec plaisir
À fond.
aux gens qui seraient curieux. Et j'espère vraiment que ça poursuivra, qu'on verra le premier numéro, parce que je suis curieux un petit peu de voir toute l'ambiance que vous avez mis. Utopia m'intéresse, j'espère que on y verra un petit peu comment est la construction, comment est la vie. La ligue de basket m'intéresse énormément aussi parce que voilà. Mais aussi le Fight to Live qui à première vue, n'était pas non plus quelque chose que j'attendais énormément, mais qui, au final, de la manière dont vous me l'avez présenté, a piqué un petit peu ma curiosité. Donc, curieux de voir la suite.
Ah, merci beaucoup. Comme tu l'as dit, on invite fortement les gens à venir checker le Tipeee. C'est vraiment là où il y a le plus d'informations possibles. Comme tu l'as expliqué un peu plus tôt, on a une présentation un peu du pitch, des personnages, du ton, de ce qui nous inspire dans la NBA, ce qui nous inspire dans la vie, ce dont on a envie de parler, des petites présentations des personnages, des petits extraits de planches que nous a concocté Antoine. Et ouais, franchement, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et on espère que vous allez kiffer.
Eh bien, je vous propose qu'on conclue l'épisode là-dessus. Comme d'habitude, vous nous retrouvez sur le blog, le podcast et compagnie. Arthur, est-ce qu'on peut te retrouver quelque part en particulier où on... Enfin, Arthur et Antoine, où on vous suit sur Hoop Island ou à vous communiquer ailleurs. Je sais, vous avez un Instagram, un Twitter, le Tipeee, et après, si vous avez d'autres choses, vous pouvez faire votre instant pub maintenant.
Vas-y, t'as des trucs à conseiller, toi, Arthur?
Bah moi, du coup, bah, on peut nous suivre sur @hoop-island, ou sinon, personnellement, sur le petit compte TwitonComics, @tweetcomicsfr, TwitComicsFR, tout attaché. Et voilà, ça parle de comics de manière variée, de un peu tout. Et ça fait la promo de Hoop Island. Parce qu'il faut bien, et qu'on est là pour ça, et qu'on espère que ça va tout déchirer. Et que vous serez au rendez-vous.
Et du coup, moi, je vais en profiter pour balancer mon Instagram sur lequel je poste pas mal de dessins. Alors, Antoine-Zerafa, tout simplement.
Ah ben c'est parfait. Du coup, moi, je profiterai pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le noter ou qui sont au volant ou quoi, ben, tous vos comptes perso, et que ce soit Instagram, Twitter, dans les notes de l'émission pour que les gens puissent vous retrouver aussi. Et en espérant que les gens iront au moins par curiosité jeter un œil au projet, parce que je trouve que ça mérite. Ça part de basket, il n'y en a pas assez, et c'est l'occasion un petit peu de pousser dans ce sens-là.
Merci.
Merci à vous deux.
Merci à toi.
Et je vous dis peut-être à un de ces jours pour qui sait la sortie du volume relié du premier arc de Hoop Island. On ne sait jamais.
Avec plaisir.
On te donnera l'exclusivité sur ce podcast.
Ça marche. Merci beaucoup. Salut tout le monde.
Salut.
Salut.